aujourd'hui, on va parler de la troisième chanson du serviteur. Alors, ce qu'il faut savoir, pourquoi troisième chanson? Parce que on a remarqué que dans cette petite passage en Ésaïe, donc de 40 à 55, une partie donc que certains experts, ils appellent ça le deuxième Ésaïe, mais pour d'autres raisons. En fait, il y a un changement radical dans ce passage où il y a des passages qui parlent de Jésus-Christ comme rien d'autre. Hein. Et il y a surtout quatre chansons, on dirait. En fait, peut-être vous avez remarqué aussi, en Ésaïe, c'est écrit d'une manière un peu différente, un peu comme une longue poésie. En fait, ça évolue, hein. C'est le style prophétique d'Ésaïe et ça donne très bien avec la musique, donc c'est comme une chanson. Mais dans tout cela, il y a quatre chansons qui parlent du serviteur de l'Éternel, qui parlent en réalité de Jésus-Christ. La plus fameuse, c'est Ésaïe 53. Et là, c'est franchement un passage super clair sur qui est Jésus. Maintenant, aujourd'hui, on verra la troisième de ces chansons, qui est aussi assez claire. En fait, au fur et à mesure que nous avançons, ça devient de plus en plus clair. Des prophéties absolument puissantes de Jésus-Christ. Au point où on pourrait dire, et d'ailleurs, beaucoup d'experts disent que, ah oui, évidemment, c'est écrit après les faits. Ben, ils ont ajouté, ils ont triché. Mais non, 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 non. En fait, si jamais quelqu'un vous présente ça comme excuse, ouais, non, tricherie et truc. En fait, petite anecdote, en 1948, il y avait une grande découverte archéologique qui a tout basculé là-dessus. En fait, il y avait un petit garçon de berger qui jouait dans le désert judéen et il a découvert une grotte. Et dans cette grotte, il y avait beaucoup de documents qui dataient avant Christ. Certains même qui datent avant que l'Ancien Testament ait été traduit en grec. Et notamment, il y a un livre presque entière du livre d'Ésaïe. Et, chose étrange, ce que nous avons dans cet rouleau, exactement ce que nous avons dans la Bible. Il y a juste très peu de variations et des variations qui sont si mineures que ça ne change en aucun cas le sens global. C'est une raison pour aller en Israël ensemble, pour justement voir ça, parce que c'est justement mis à l'exposition que tout le monde puisse le voir. Et en fait, ça prend toute une salle donc, de le voir un de ces jours. Donc, si quelqu'un dit, non, 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 il y avait tricherie, il y avait, non, c'est, ben, on pourrait dire, ouais, mais quand? Parce que, de toute évidence archéologique, ça a été, et c'est exactement ce qui a été écrit avant Christ, donc pas moyen de tricher là-dessus. Non, Dieu a utilisé son prophète. Enfin, je ferme la parenthèse, je ne sais même pas pourquoi je suis allé dans cette direction-là, ce n'était pas le sens aujourd'hui, parce que aujourd'hui, on va parler du fait que dans cette troisième chanson du serviteur, nous avons comme un patron, un plan qui montre en réalité une meilleure façon de vivre, une meilleure manière d'être humain, un homme, une femme dans cette vie. Et c'est ce que seulement Jésus-Christ peut faire pour nous. Alors, il est vrai que parfois, on peut trouver quelque chose qui on pourrait dire, ben, en fait, c'est quelque chose de petit, ça n'a pas grand impact sur le monde, il n'est qu'un serviteur. Mais c'est souvent les choses les petites et dites, enfin, entre guillemets, insignifiantes, qui sont en réalité, qui a le plus grand impact. Notamment, cette semaine, On a eu un truc qui va vraiment dans ce sens. On avait des problèmes d'électricité à la maison. Donc, on a appelé un EDIS. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Il y avait une seule fil et un connecteur. Donc, c'est un peu comme ça, hein, très petit, qui était défectueux. Et donc, ça, en fait, a perturbé l'électricité dans notre maison. Mais s'ils n'avaient pas réparé, si donc nous n'avons pas appelé Enedis, en fait, ça risquait de couper l'électricité pour tous les meubles. Et ce sont des trucs vraiment, vraiment petits. Et voilà en quoi, justement, quelque chose de très petit peut avoir un grand impact. Mais de façon positive, surtout, oui. Parce que ce serviteur est en réalité le Seigneur de la vie. Ce serviteur est né dans un monde d'une façon le plus humble possible, mais son impact, nous le ressentons toujours et nous le ressentirons pour toute l'éternité. Donc, il nous montre une meilleure façon de vivre, qui est contraire à ce monde qui cherche toujours après la gloire, le truc le plus grand, grandiose et fort. On va apprendre sur Jésus. Nous verrons d'abord la vie du serviteur. Deuxièmement, nous verrons son secours. Et puis troisièmement, son assurance. Parce que dans sa vie, son secours et dans son assurance, il y a des choses pour nous, des bénédictions pour nous. D'abord, la vie du Seigneur, le serviteur de Yahvé, a des leçons pour nous. On est en Ésaïe 50 et je vais lire les versets 4 à 6. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne suis pas rébellé. Je ne suis pas retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. Déjà dans cette vie qui nous propose. C'est une vie de disciple, c'est une vie aussi de souffrance. Mais une vie de disciple, d'abord. Là, il parle de comment, matin après matin, il se réveille pour écouter et pour mettre en pratique la parole. Il mène une vie de disciple. Et il y avait à l'époque les écoles des prophètes, où les prophètes, ils apprenaient justement d'une façon maître, disciple, rabbin, disciple, si vous voulez. Même si il y avait des appels comme par exemple, on a vu Jérémie qui était appelé même avant sa naissance d'être un prophète pour l'Éternel. Oui, mais le pauvre, il fallait quand même qu'il soit alphabétisé. Il faut aussi qu'ils apprennent les choses de la vie normale. Même Jésus, c'est ça qui est frappant. Jésus a dû apprendre ses lettres à la synagogue comme n'importe qui, parce qu'il est 100% humain. En fait, en Hébreux 5, 8, il a appris l'obéissance. Bien qu'il fût le Fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Christ, donc, s'est limité dans notre temps par son humanité, même jusqu'à l'obéissance à la croix. Mais dans sa vie aussi, le Christ, l'Éternel, il a jeûné pendant 40 jours. C'est curieux, n'est-ce pas? En plus, il se levait le matin, justement, en Marc 1, 35, nous lisons, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Il se mit à prier, comme n'importe qui. Et on a l'impression que c'est vraiment son habitude. comme Esaïe a dit. Il éveille, matin après matin. Il ouvre mon oreille. Justement, les paroles du Christ, tout son enseignement, même les meilleures choses qui collent dans le mémoire du monde, ça ne vient pas de lui. C'est lui qui le dit. Jean 12, verset 49. « Car mes paroles ne viennent pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce dont je dois parler. » Jésus était entièrement dépendant sur le Père. Il nous montre la meilleure façon d'être un disciple. Il était fidèle jusqu'au bout. Il ne cherchait pas son propre intérêt. Il était absolument fidèle à son appel, à sa vocation et à l'écoute du Père. Et là, ça me parle. Ça doit nous parler, je pense, en tant qu'humains. Parce que ça nous montre que notre vie, même si on fait des formations, chacun ici, vous avez fait votre formation, vous avez fait des études, vous êtes dans le milieu professionnel et vous avez maîtrisé quelque chose et vous le mettez en pratique dans ce monde. OK. Mais est-ce qu'on pourrait dire la même chose de Jésus? Bien sûr. Et pourtant, matin après matin, il prend le temps de prier et de s'appuyer sur le Père. Évidemment, là je pense si vous travaillez avec les ordinateurs, par exemple, vous n'aurez pas le temps d'arrêter. Jésus, qu'est-ce que je dois faire dans ce code? Non. Enfin, ou si vous êtes dans les urgences, vous n'aurez pas le temps de je vais prier maintenant et évidemment, ça ne peut pas se faire. Comment faire alors? Comment être chrétien dans votre milieu du travail? Être disciple le matin quand personne ne le voit ou le soir. Enfin, c'est à vous de voir. Mais le temps de prendre, le temps que vous preniez avec Dieu va alimenter toute votre vie. Ce n'est pas juste votre vie spirituelle, c'est toute votre vie qui est touchée par le temps que vous faites et que vous passez en tant que disciple. Et Jésus nous le montre par excellence. Et c'est justement cette vie de disciple qui la conduisait dans une vie de souffrance. Et il faut dire que même être parmi nous est en quelque part une souffrance pour Christ. Lui qui avait toute majesté, toute perfection, d'être limité dans notre sphère, de voir l'oppression que font les hommes et toutes les inégalités, les injustices. Déjà, il y avait quand même une certaine souffrance pour lui, juste pour vivre dans cette terre. Mais ça va plus loin, nous savons. En fait, beaucoup ont souffert dans la Bible. Là, ce n'est pas quelque chose d'anormal, comme Paul a fait remarquer en Actes 14, 22. C'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Le verset favori de personne. mais c'est là, hein? C'est vrai, hein? Selon la tradition aussi, Esaïe, l'auteur de notre passage, vous savez, il était scié en deux vivant. C'est horrible d'être un prophète de l'Ancien Testament. Mais toutes ces choses nous amènent finalement à Christ, qui a fait quelque chose d'absolument extraordinaire. En fait, un expert du Nouveau Testament, Richard Hayes, nous souligne justement comment ce passage que nous avons en Ésaïe convient à ce qui est écrit en Matthieu. Certainement, lorsque Matthieu, qui était témoin oculaire des souffrances de Christ, certainement quand il commençait à rédiger son évangile par le Saint-Esprit, il devait se rappeler de ce passage en Ésaïe en disant, mais tiens, il parlait de Jésus là. Regardez, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage et aux outrages et aux crachants. Alors qu'en Matthieu, là au-dessus, il crachait au visage. Lui donnèrent des coups de poing, d'autres le giflaient en disant, « Christ, devine, dis-nous qui t'a frappé. » C'est fort. Ce n'est pas juste qu'il a souffert. C'était divinement destiné, enfin prédestiné pour lui. C'était exactement le plan de Dieu. Mais pour nous, il a subi ce que nous ne pouvions pas subir pour nous racheter de ce monde. Les pères de l'Église ont vu dans ce passage une prophétie claire des souffrances du Christ avant sa crucifixion. Mais on se dit, ouais, ok, mais qu'est-ce que ça a à voir avec un serviteur? Franchement, souffrir, serviteur, enfin, pourquoi les deux vont ensemble? Oui, on peut comprendre l'idée d'un disciple, mais souffrance? Parce que sa mort est au service de ceux qu'il a sauvés. Sa mort est au service de ceux qu'il a sauvés. Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Et voyez comment il va servir? Il sert en donnant sa vie en rançon pour beaucoup. C'est-à-dire son service, c'est la croix. Et donc, c'est avec ça en tête que nous comprenions mieux ce que Jésus disait ici. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui est le plus grand? Jésus est le plus grand. Il est le meilleur serviteur de tous parce qu'il a donné sa vie comme un rançon pour nous libérer. Il est celui à qui nous allons tous nous agenouiller et célébrer pour toute éternité en proclamant que Jésus est Seigneur pour la gloire du Père. C'est ses souffrances qui nous soutiennent dans les nôtres. Vous voyez? Parce que la vie de disciple, avec toutes les difficultés qu'elle présente et les souffrances que nous endurons dans cette vie, en Christ, nous avons un meilleur avenir. Ce n'est pas pour être écrasé. Ce n'est pas pour vivre une vie misérable. Ce n'est pas pour être totalement effacer que Dieu donne cela. Mais ce qui est paradoxal dans tout cela, c'est que il a déjà envisagé un secours. Il y a le secours pour le serviteur, il y a un secours pour nous aussi. Donc un avenir. Verset 7. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été outragé. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un roc, sachant que je ne serai pas honteux. Celui qui me justifie est proche. Qui veut entrer en procès avec moi? Affrontons-nous. Qui s'oppose à mon droit? Qui s'avance vers moi? Voici que le Seigneur l'Éternel viendra à mon secours. Qui me condamnera? Voici qu'ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. C'est fort, hein? Mais il sait qu'il sera secouru. Et parce que il sait qu'il y a ce salut devant lui où il serait délivré, le serviteur est déterminé. Il va aller jusqu'au bout de sa mission parce qu'il sait ce qui sera la fin. Et c'est justement en cela que, deuxièmement, nous verrons notre part dans tout cela. Mais d'abord, pensons à cette détermination, son secours. C'est une idée que Dieu prépare son prophète déjà pour l'opposition qu'il rencontrera. Parfois, on entend les histoires des hommes ou des femmes qui font des choses absolument inouïes pour le Seigneur. Et on se dit, mais comment est-ce qu'ils arrivent à le faire? Parce que Dieu leur a donné la grâce de le faire. Et qu'est-ce que ça nous dit? Dieu vous a donné la grâce de faire ce que vous faites et ce que vous ferez. Si vous faites confiance en lui, si vous vous attachez à lui parce que vous avez un plan pour votre vie, si vous vous appartenez à lui, ce n'est pas pour rien, c'est pour une destinée, c'est pour un plan spécifique qui convient parfaitement à sa volonté. Et donc, il vous équipe pour le faire. Mais pour justement ces gens qui font des choses incroyables, on dirait, ils reçoivent une grâce spéciale pour cette tâche. Justement, c'est une idée, en fait, que Dieu prépare déjà son peuple pour le prophète, pour l'opposition. Ben, en Ézéchiel, on a un très bon exemple de cela. Ézéchiel 3:8. Regardez. Voici, j'endurcis ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcis ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, ne t'épouvons pas devant eux, car c'est une famille de rebelles. Dieu prépare ce prophète spécifiquement pour la tâche. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça correspond un petit peu avec ce que Ésaïe a dit, n'est-ce pas? Lorsque il a dit, j'ai rendu mon visage semblable à un roc. Mais voilà toute la différence. Dieu prépare son prophète et dit, je rendrai ton visage comme un roc parce que tu dois t'affronter à des gens difficiles. Le serviteur, par contre, il dit, je me rendrai moi-même comme un roc parce qu'il y a des gens difficiles. Le serviteur le fait pour lui-même et il le fait en pensant à son but, le cap, si vous voulez. En fait, ça devient très intéressant lorsque nous comparons à Luc 9. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, donc la crucifixion, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Cette version française, hein, il dit la ferme résolution parce que littéralement, il dit, il met sa face, qu'il ne veut rien dire. À moins que vous connaissez ce passage en Ésaïe, n'est-ce pas? Et ça, c'est pourquoi dans d'autres versions, dans d'autres langues, par exemple, ça marche en anglais. He set his face towards the goal. Et j'imagine dans d'autres langues aussi, ça peut marcher. L'idée, c'est que Jésus a rendu ferme son visage en allant jusqu'à la croix. Sa détermination d'aller tout au bout. C'est un peu comme ce verset très connu aussi. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à droite du trône de Dieu. C'est la même idée. Parce que cette joie qui lui était proposée, cette joie du salut de toutes ces personnes, de la consommation de toutes choses, la fin de tout mal, cette joie qui lui était proposée, pour cela, il a supporté la croix. C'est fort. Donc, quel était le secours du Christ? Il fut ressuscité. L'ascension que nous sommes en train de célébrer, n'est-ce pas? Et aussi, sa glorification, le fait qu'il reviendra et toute chose sera consommée en lui. Et on est surtout, je crois, ému quand on pense à sa détermination, qui n'a pas reculé devant l'épreuve. Il s'est fortifié jusqu'au bout, connaissant cette délivrance du Père. Et quel exemple pour nous aussi de ne pas perdre courage dans ce monde. Quand on garde en tête ce que Dieu a réservé pour nous, de ne pas s'épuiser en faisant le bien, en s'éveillant le matin, même quand on est face à des gens qui sont ingrats, qui sont méchants, agressifs ou autres, de ne pas perdre cet courage et ne pas perdre le but en tête. En fait, c'est ce que Paul aussi veut nous faire comprendre lorsque Paul utilise même ce même texte en Ésaïe pour expliquer ces choses. Mais la façon dont il le fait est incroyable. Regardez. Pardon. Celui qui me justifie est proche. Qui veut entrer en procès avec moi? Affrontons-nous. Qui s'oppose à mon droit? Qui s'avance vers moi? Voici que le Seigneur l'Éternel viendra à mon secours. Qui me condamnera? Ce n'est pas arrogant, c'est le serviteur qui connaît bien le Père, n'est-ce pas? Il sait qu'il sera secouru, il connaît les choses. Mais qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu et celui qui les justifie. Ou bien, qui les condamnera? Pratiquement la même question. Le Christ Jésus est celui qui est mort. Et bien plus, il est ressuscité, il est à droite de Dieu, il intercède pour nous. Qu'est-ce qu'on a à craindre? Ou bien, qui nous séparera de l'amour du Christ? Franchement, avec tout ce qui est accompli pour nous, qui nous séparera? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée? Non. Selon ce qui est écrit, à cause de toi, ou on nous met à mort tous les jours, nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes, lisons-le ensemble, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est qui nous sommes. Et ça, c'est notre secours. La première chose que nous remarquons, c'est que Paul associe ce passage à Christ. Et même dans son application pour ceux qui sont en Christ. En Ésaïe, le serviteur est plein de confiance. Il défie les ennemis. Il les invite à entrer en procès avec lui. Bon, qui veut justement entrer en procès avec Jésus? Ben, les gens le font aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais à quoi bon? Il sait que l'Éternel va le défendre et le secourir. Pour le chrétien, notre défenseur, c'est lui. Lui qui n'a peur de personne, il est notre défenseur. Donc même les souffrances, les croyants deviendront leur source de victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. La vie de disciple, les souffrances, le processus entier nous rend plus que vainqueurs. Et finalement, c'est le serviteur qui assure un avenir pour nous tous. Verset 10. Qui parmi vous craint l'Éternel? En écoutant la voix de son serviteur, qui marche dans les ténèbres et manque de lumière, qui se confie dans le nom de l'Éternel et qui s'appuie sur Dieu. Et voici que qui, vous qui allumez un feu, qui formez un cercle des flèches ardentes, allez dans votre feu, et dans les fournaises, parmi les flèches ardentes que vous avez enflammées. C'est par ma main que cela est arrivé. C'est pour la souffrance que vous vous coucherez. Donc deux choses, deux portes. Pour ceux qui s'appuient sur la parole du Seigneur et pour ceux qui s'opposent. La différence est très différente. Pour ceux qui s'appuient sur la parole du Seigneur, l'exhortation est parée avec ce que Paul a dit. Vous serez plus que vainqueurs, même si vous êtes dans une période ténébreuse dans votre vie. Là, il dit, même si vous marchez dans les ténèbres, il manque de lumière, qui se confie dans le nom de l'Éternel, qui s'appuie sur son Dieu. Sous-entendu, c'est lui la lumière et c'est lui qui va vous enlever de cela. Il vous délivrera. Dieu est fidèle et c'est pourquoi sa parole est absolument digne de confiance. L'avenir pour ceux qui craignent l'Éternel, c'est le salut, c'est la vie, c'est sa présence. Mais pour ceux qui s'y opposent, c'est très différent. Et j'aime bien ce que le prophète dit, sa façon de parler. Parce que là, il utilise une illustration. Ceux qui font du feu et dans les fournaises, qui préparent des flèches ardentes, en fait, c'est ceux qui utilisent les moyens humains pour, regardez bien, c'est par ma main que cela vous est arrivé. Il utilise les moyens humains pour combattre contre Dieu. C'est fort inutile, on pourrait dire oui. Mais comme il ne craint pas Dieu, comme il ne croit pas que Dieu est là, donc ils utilisent tous les moyens humains pour préparer et pour se battre contre les choses que Dieu a mis sur leur chemin. Et pourquoi est-ce qu'il les a mis sur leur chemin? Pour qu'ils s'arrêtent, pour qu'ils réfléchissent, pour qu'ils se tournent vers lui, mais ils ne veulent pas. Et puisqu'ils ne veulent pas, la condamnation est sûre. Parce que c'est lui qui les a préparés. Et c'est pour la souffrance que vous coucherez. Effectivement, une référence à l'enfer. Personne n'accusera Dieu du mal le jour du jugement. Surtout pas si les épreuves qu'il a préparées pour eux étaient pour les choquer, pour qu'ils regardent vers le haut, pour qu'ils regardent au moins cette création que Dieu a créée, qui témoigne de sa présence, qu'ils écoutent le témoignage dans leur cœur qu'il a mis, parce que Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme, pour que l'homme ait finalement inexcusable, et qui se tourne vers lui. En conclusion, on a parlé justement, troisième chanson, de la vie du serviteur de l'Éternel, marquée d'abord par une vie de disciple. Quel bel exemple pour nous. Et que même par ses souffrances, il nous a montré une meilleure façon de vivre. C'est grâce à ses souffrances que nous pouvons vivre différemment. J'ai dit tout à l'heure que ça nous enseigne à une meilleure façon d'être humain. On ne peut pas changer notre manière d'être humain, à moins que Dieu nous change et transforme notre nature. La meilleure manière d'être humain, c'est d'être né de nouveau. C'est d'être animé par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous donne une meilleure assurance. Et voilà la vie de Jésus de Nazareth, serviteur de Yahvé par excellence, qui montre cette meilleure manière de vivre, une meilleure œuvre, et une meilleure puissance. Et donc, pour nous, on peut regarder notre vie et on peut dire, oui, mais c'est ma petite vie, c'est insignifiante. Mais rappelez-vous de mon appartement. Il suffit juste un petit fil, un petit connecteur défaillant pour que tout l'appartement soit coupé d'électricité. Mais de façon positive, il suffit d'un homme, d'une femme remplie du Saint-Esprit, une seule personne en fait, pour toucher beaucoup autour de lui. Et c'est exactement ce que Dieu est en train de faire de votre vie. Alors, saisissons l'épreuve, si vous voulez. Saisissons la vie. Marchons dans l'imitation de Jésus-Christ. Et par son esprit, faisons vraiment notre impact dans cette ville, n'est-ce pas? Ok. Amen.